Bonjour, Renaud Dourge en votre compagnie. J'ai le plaisir d'être, par téléphone je le précise, en compagnie de Gabriel Katz pour L'Assassin de Pigalle, paru aux éditions City. Gabriel Katz, bonjour.
Bonjour.
Alors, si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour ce roman, mais nous allons un petit peu dresser votre portrait, car c'est la première fois que je vous reçois, avec grand plaisir, bien évidemment. Vous êtes auteur d'un certain nombre de romans, mais également vous êtes scénariste de bande dessinée. Et je pense que l'écriture entre les deux est un peu différente.
L'écriture est extrêmement différente. C'est-à-dire que je fais en substance du polar, du thriller, du roman d'aventure, de la fantasy, de la littérature blanche. Tout ça s'écrit à peu près de la même façon. La bande dessinée, c'est vraiment le travail des scénaristes. Et il se trouve que je suis aussi un peu scénariste télé, donc ça se recoupe.
Oui, vous avez une série qui a été faite en projet transmédia.
Absolument. C'était Les Papillons Noirs qui est sorti chez Lattès, au Masque, qui est un thriller et c'est effectivement un projet très étrange où j'écrivais le livre qui s'écrit à l'intérieur de la série. C'est-à-dire que dans la série, il y a un personnage qui est un écrivain fantôme, qui écrit pour les autres et qui interprète le récit qu'un monsieur lui fait. Cet homme qui lui fait ses confidences, c'est un psychopathe. Donc voilà. Et le livre, je l'ai écrit en temps réel, en même temps que la série était filmée, ce qui est quelque chose de très amusant, très étrange.
Alors, il y a parfois le film à l'intérieur du film. Vous, c'est le roman à l'intérieur du film, en quelque sorte.
Voilà, exactement.
Et vous vous qualifiez...
Pour le coup, je faisais l'écrivain fantôme de l'écrivain fantôme, oui. Qui est une mise en abîme absolument inédite.
Parce que vous vous qualifiez vous-même de nègre littéraire.
Alors, le mot n'est plus tellement utilisé.
Non, c'est vrai, bon, on parle de... On emploie parfois le mot anglais shadow writer.
Ghostwriter. Oui. C'est ghostwriter, finalement. C'est écrivain fantôme, c'est pour ça que je le traduis en français. Je trouve l'expression est assez jolie. Et effectivement, j'ai très longtemps écrit les livres des autres, qui étaient soit des people, soit des gens de spectacle, soit des sportifs, comme on s'imagine, et parfois des écrivains.
Et là, donc, dans Les Papillons Noirs, il y avait... ce qu'on appelait une fille de Bosch, ce qui nous ramène à l'époque de L'Assassin de Pigalle, en quelque sorte.
Absolument. Absolument. Alors, elle est en préambule dans les Papillons Noirs, et en revanche, la période est tout à fait au centre de L'Assassin de Pigalle, puisque c'est vraiment de cette période qu'il s'agit.
Et c'est une période qui vous intéresse particulièrement, sur le côté historique?
C'est une période qui me passionne, qui m'a toujours passionné et j'ai toujours pensé qu'il fallait que j'écrive un livre sur fond de Seconde Guerre mondiale. En revanche, je n'avais pas prévu de partir à la fin de la guerre parce qu'en fait, c'est une période qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins utilisée, qui est cette période finalement qui commence à partir de 1945 et qui va courir jusqu'au début des années 50, où on est encore dans les tensions, dans les douleurs de la guerre, mais on est quand même dans un pays libéré.
Nous allons donc, entre autres, parler beaucoup de la carlingue. Et comme je vous l'ai dit lorsque je vous ai appelé il y a deux ou trois jours, j'avais reçu dans ce studio David Alliot qui avait fait un bouquin consacré à un livre à la carlingue, enfin un ouvrage historique, non pas un roman. Et je crois que vous m'avez dit que vous aviez utilisé pour vos sources historiques ce livre.
C'est une de mes sources principales, si ce n'est là. En fait, j'ai travaillé avec des bouquins d'historiens tout à fait reconnus là-dessus, comme Jean-Marc Berlière, qui est un spécialiste de l'histoire de la police, Philippe Aziz, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la Gestapo. Mais honnêtement, le livre d'Alliot est très, très, très bon. Il est à la fois très fouillé, très accessible pour les gens qui s'intéressent au sujet, qui voudraient creuser, parce que L'Assassin de Pigalle, c'est un roman. Ceux qui voudraient creuser, c'est le 93 rue Lauriston, c'est un très très bon livre.
Et pour parler de cette époque aussi, il y a, pour les côtés anecdotes, les ouvrages de Jean Galtier-Boissière, Mon journal sous l'occupation, Mon journal à la libération, il y a pas mal d'anecdotes.
Ah, eh ben, j'y ai pas eu accès. Il fait pas partie de ma liste. Si j'avais su, j'aurais sans doute eu.
Ils n'ont pas été réédités. Je crois qu'on les trouve vraiment que chez les bouquinistes. Hein. J'en ai deux exemplaires
oui,
à la maison.
Plus délicat, ouais.
Mais je me souviens que dans l'un d'eux, il parle au moment de la libération d'un groupe de FFI qui se fait arrêter parce qu'en fin de compte, c'est des anciens miliciens qui venaient juste de retourner leur veste.
C'est un truc qui s'est beaucoup, beaucoup fait. Il y a cette espèce de flou, en fait, qui plane sur la période où, justement, on est souvent et résistant, et gestapiste, et milicien, et tout ça un peu à la fois. Donc, c'est des retournements de veste, je pense qu'il est très, très difficile de s'y retrouver, je suppose, autant pour la police que pour les gens de tous les jours.
Alors là,
Au
nous sommes
final,
en
il suffisait de.
1945.
Ouais.
Et un homme a été exécuté dans un hôtel vraiment miteux. C'est pas, on peut pas dire que ça soit un palace à Pigalle. Et
Non, pas franchement.
son assassin, il lui dit que la victime, justement, c'était un fameux membre de cette carlingue. D'ailleurs, on va quand même rappeler qui était la carlingue pour les jeunes auditeurs, peut-être qui n'en savent pas beaucoup plus dessus, et que lui-même est un ancien déporté. Déjà, rappelons ce que fut la carlingue. Ce fut non pas
Alors,
la Gestapo, mais une des Gestapos françaises.
c'est une des Gestapos françaises, c'est de très loin la plus connue et très probablement la plus puissante. Il y en a eu d'autres, il y a eu les Corses, il y a eu la Signorine Henri Martin, il y a eu des Gestapos en province, pas mal. Au départ, ces gens-là étaient, pour faire court, sont des gens qui sont sortis de prison. C'est un homme qui est sorti de prison, qui s'appelle Henri Lachon, qui est un escroc sans envergure, somme toute. Il sort de prison avec un espion allemand. Et comme c'est les Allemands qui gagnent la guerre, il va remonter à Paris avec cet espion allemand. Et les Allemands vont dire, voilà, il est recommandé par notre camarade, il a l'air assez débrouillard, on va lui confier quelque chose. Et il monte un bureau d'achat, ce qui est une chose qui se faisait pas mal donc juste après la victoire allemande. Ils ont monté des bureaux d'achat pour, je simplifie, on ne va pas rentrer dans tout le système, mais pour finalement acheter toutes sortes de marchandises en masse à envoyer en Allemagne pour l'effort de guerre et pour le reste, payées avec les indemnités de l'armistice, c'est-à-dire des marchandises françaises payées avec de l'argent français. En gros, c'est de la monnaie de singe. On achète comme ça des choses qui n'ont pas. Donc, on n'est pas vraiment payé par les Allemands et on met tout ça dans les trains pour l'Allemagne. Et ce
Rappelons
Lafont en
aussi.
question, il va monter son bureau d'achat et ça va être le tout début de cette Gestapo qui n'en porte pas encore le nom.
Donc, à l'origine, c'est pour un domaine économique, mais rappelons aussi qu'à l'époque, la parité entre le franc et le Deutschmark est totalement disproportionnée.
Et c'est sûr. Et surtout, la disproportion la plus colossale, c'est l'argent que vont faire ces gens-là, qui sont une petite poignée d'arrivistes, et le salaire moyen. Le salaire moyen, c'est, je crois, 1 400 francs, quelque chose comme ça. Et parmi ces futurs gestapistes de la rue Lauriston, il y a des gens qui vont fêter leurs milliards de francs aux alentours de, je crois que c'est 1942, quelque chose comme ça. Donc 1 milliard pour 1 400 francs de salaire moyen, juste en ayant pillé des appartements, en ayant. En fait, ce sont des voyous à qui on va donner une carte de. C'est plus qu'une carte de police, c'est un Ausweis, qui est une carte de la police allemande, finalement. Et petit à petit, ils vont carrément être officialisés comme Gestapo française. Ils vont avoir un pouvoir absolument colossal. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de tout, y compris de réquisitionner la police française, et y compris de réquisitionner les Allemands. Ils peuvent réquisitionner des soldats allemands en pleine rue en disant, voilà, Gestapo, j'ai besoin de vous. Ce qui est assez dingue dans la mesure où ils ne parlent même pas allemand, ces gens-là.
Rappelons aussi que le bras droit de Lafont, alias Chamberlain, c'est un ancien policier qui fut très célèbre avant-guerre.
C'est une star de la police, effectivement. Lafont, il s'accoquine avec Bonny. Alors on appellera ça le groupe Bonny-Lafont. On devrait appeler ça le groupe Lafont-Bonny, parce que Bonny n'est jamais qu'un exécutant de haut niveau. Bonny, c'est effectivement un type qui a fait tomber Stavisky. Donc l'affaire Stavisky, c'était quelque chose de très connu à l'époque, qui l'a propulsé au rang de premier flic de France, comme on disait à l'époque. Il a été débarqué de la police pour escroquerie, malversation, etc., etc., corruption, tout ça. Il a eu sa période, son passage à vie, sa traversée du désert. Et l'émergence de cette espèce de Gestapo française, qui est un tremplin complètement imprévu, va le ressortir de l'ombre, en fait. Et il va devenir l'adjoint de Lafont, et il va mettre de l'ordre dans ce qui, au début, n'est qu'une machine un petit peu chaotique où chacun se sert. Il va transformer cette rue Lauriston, cette Gestapo de la rue Lauriston, en quelque chose de très, très, très structuré, de très carré.
Mais on sent qu'il est très
Une espèce de
bureaucrate, lui.
police dans la police. Il est extrêmement bureaucrate. C'est le seul qui n'a pas versé dans la fête débridée. Parce que quand vous donnez à des voyous une carte de la Gestapo française en leur disant tu es libre de faire ce que tu veux, tuer qui tu veux, piller ce que tu veux, etc., les types, ils se lâchent. Et après, c'est champagne, c'est les boîtes, c'est les prostituées, etc., etc., c'est les cabarets, tout. Bonnie, non. Bonnie, il rentrait chez sa femme et ses enfants tous les soirs.
D'ailleurs, son fils
Après
avait
avoir
écrit un livre
torturé
il y
les
a une
enfants.
vingtaine d'années, L'inspecteur Bonnie, mon père. Mais qu'on ne trouve plus. J'ai essayé de le trouver il y a déjà quelques
Qu'on
années.
ne trouve
Il devient
plus, ouais,
introuvable
je ne l'ai pas trouvé
pratiquement.
non plus. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Effectivement, ça aurait été très intéressant de voir la façon dont il voit les choses. Parce que j'avais lu des témoignages assez intéressants sur les enfants des dignitaires du Troisième Reich, par exemple, qui ont vécu leur hérédité de façon très très différente. Vous avez la fille de Himmler, par exemple, qui pense que son père était un saint. Je sais plus, je crois que c'est la fille de Göring aussi, qui était encore très admiratif de son père. Donc ça dépend. Oui, le fils de Bonnie, ça m'aurait beaucoup intéressé, mais malheureusement, ce livre, effectivement, ne se trouve plus.
Chez les bouquinistes, peut-être. Alors, nous n'avons pas
C'est
encore
possible, ouais.
parlé du corps de cet ouvrage, L'Assassin de Pigalle, donc paru chez City. Il y a un policier qui s'appelle donc Max Weber, et lui, il n'était pas à Paris sous l'occupation, donc il découvre certaines choses.
Ben, il découvre en fait à peu près ce que la majorité des lecteurs vont découvrir, dans la mesure où ce n'est pas une histoire très connue, cette Gestapo française, cette carlingue. On a une connaissance très approfondie ou qu'on pense être très approfondie de la résistance et de la collaboration vichyste. En revanche, la facette Gestapo française, on est un peu passé à côté. Vous ne le trouverez pas dans les livres scolaires, j'en ai jamais entendu parler, même en études supérieures. On s'y intéresse si on tombe dessus et on ne sait pas grand-chose de plus. Et Max Weber, c'est un peu ça finalement. Il a fait la guerre dans l'armée américaine pour des raisons qui sont expliquées dans le bouquin. Et il revient à Paris sans avoir vécu l'occupation à Paris. Donc ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il est complètement rincé par la guerre parce que il était dans le 101e aéroporté, qui est une unité d'élite, mais qui a fait les Ardennes, qui est allé jusqu'en Allemagne. Il revient, il est totalement. Il a ce qu'on appelle un PTSD en anglais, c'est un syndrome post-traumatique. Donc il vit avec son pistolet dans la main, un peu de choses près. Et ce Paris qu'il découvre, il ne le reconnaît plus vraiment. Et il va découvrir en même temps que le lecteur ce qui s'est passé en arrière-plan, en fait.
Il va
Et
donc
quand on lit.
enquêter, il va enquêter, et on a vraiment l'impression que sa hiérarchie essaye de vraiment d'étouffer l'affaire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de policiers compromis pendant la guerre, mais on a aussi l'impression qu'on veut tourner une page.
C'est surtout ça, en fait. Parce qu'il y a. J'ai vécu avec l'espèce de certitude comme quoi la police française était entièrement mouillée, que c'était pas si propre que ça, et qu'ils étaient tous en vie avec un Gestapo. C'est pas très vrai. Quand on lit, qu'on creuse, c'est pas si vrai que ça. La police française était entre deux eaux. Il y a beau avoir eu des choses comme la rafle du Bel-Ville, etc., où il n'y avait pas d'Allemands, c'est vrai. La police a joué quand même un rôle beaucoup moins simpliste qu'on veut bien le croire. En
Nous allons
revanche, ce qui
laisser
est
passer un
sûr.
communiqué, si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie de Gabriel Katz pour L'Assassin de Pigalle, paru chez City. Nous parlions donc à l'instant de la police. Il y a également une avocate qui va défendre cet assassin et elle va être aux côtés du policier et, curieusement, elle-même semble être victime de violences conjugales.
Elle, en fait, c'est la locomotive de ce livre avec Max Weber qui, au début, est très extérieur à l'affaire, qui, finalement, n'a pas tellement envie de creuser dans la mesure où il est incoupable. Cette fille va le pousser, le tirer en essayant de l'éveiller à ce qui, finalement, sur ce qui va devenir une très grosse affaire. Et effectivement, paradoxalement, alors qu'elle essaye de faire son métier et de faire échapper à la guillotine un coupable qui a exécuté un membre de la Gestapo, effectivement, elle-même, en parallèle, est victime de violences conjugales. Elle ne le dit pas vraiment, si on aperçoit au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui vit le statut de la femme en 1945, c'est-à-dire on est encore à une période où elles sont très déconsidérées. Elle est avocate, son fiancé est avocat aussi, il la regarde de très haut. En fin de compte, entre elle et Max Weber, on a deux bras cassés qui s'attaquent à quelque chose de très très gros. Une enquête qui est beaucoup trop grosse pour eux, dans la mesure où personne effectivement ne veut en entendre parler. Et mine de rien, ils sont peut-être bras cassés, mais ils vont réussir à démanteler quelque chose qui est, dont personne ne veut entendre parler.
Mais on pourrait penser que cet assassin, du fait que c'est un ancien déporté, ne risque pas la guillotine, mais bon, là, effectivement, il la risque.
Ah ben, il la risque tout à fait, dans la mesure où on n'a pas de preuves comme quoi, effectivement, le voyou qui est mort dans cette chambre d'un hôtel miteux de Pigalle aurait été un membre de la Gestapo. C'est très trouble. Les membres de la carlingue identifiés, Lafont, Bonny, tous ces gens-là, ils ont été, alors soit ils sont en fuite, mais on a des noms comme Annabelle Danos, etc., soit ils sont morts. Ils ont été exécutés, fusillés, assez vite d'ailleurs, un peu trop vite dans la mesure où ils avaient sans doute beaucoup de choses à dire qu'ils n'ont pas eu le temps de dire. Et tout le reste est enfui, tout le reste est dans une espèce de zone grise. On n'est pas totalement résistant, on n'est pas totalement gestapiste. Donc finalement, la seule chose qu'on a, c'est la parole de cet assassin, qui d'ailleurs ne parle pas beaucoup, et qui dit qu'effectivement, la victime, entre guillemets, est un membre de la Gestapo. C'est la personne qui l'a arrêté, torturé, déporté. Si c'est le cas, il a des circonstances atténuantes. La seule chose qui manque à l'enquêteur, et c'est très important, c'est une preuve.
Et pour revenir à l'arrestation de Bonny et Lafont, tout à l'heure on parlait de gens assez troubles qui jouaient sur les deux tableaux, ils ont été dénoncés par quelqu'un qui a vraiment joué sur les deux tableaux, c'était Jovanovici.
Alors Jovanovici, oui tout à fait. Alors, Jovanovici,
le ferrailleur milliardaire qui est mort dans la misère.
Voilà, que j'aborde pas dans le bouquin parce qu'il est pas, il fait pas partie de l'intrigue, mais c'est un personnage complètement dingue de l'occupation, qui est un ferrailleur, je sais plus si c'était roumain, quelque chose comme ça, totalement un culte qui s'est enrichi à milliards et qui a fricoté avec la totalité du monde interlope de l'occupation, et particulièrement avec la carlingue, et qui, comme beaucoup de monde, a réussi par un redressement acrobatique à siéger du côté des vainqueurs.
Il ne fut jamais arrêté par les Allemands alors qu'il était juif.
Jamais. Jamais. Ni par les Allemands alors qu'il était juif, ni par les Alliés alors qu'il a quand même travaillé avec les Allemands main dans la main. Il a financé un nombre de gens absolument incroyables. Il s'en est, oui, parfaitement sorti. Et c'est effectivement lui qui a dénoncé Bonny et Lafont qui se cachaient dans une ferme tranquillement.
Alors il faut quand même signaler qu'il est probablement le seul juif à l'époque à qui Israël, lorsque Israël a été créé, il n'a pas eu le droit d'aller en Israël comme tous les autres. Ça lui a été refusé par l'État d'Israël. Ça, on l'oublie souvent.
Disons qu'il y a un peu de quoi. C'est-à-dire qu'il a été, ouais, il a été vraiment l'image, mais pure et dure, de ce qu'on peut être quand on est un pur salaud. C'est-à-dire qu'il a tiré son intérêt autant que possible et à tous les étages. Et pas mal de monde s'en est sorti. Lui, c'était peut-être plus flagrant que le reste parce qu'il était immensément riche. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens, et il y en a dans le livre d'ailleurs, même de plus petits poissons, qui remontent tranquillement une vie. Il y en a qui ont créé la French Connection par la suite pour continuer leurs activités. Il y a des gens qui ont été garde du corps du général de Gaulle sur des meetings. Alors, j'imagine que de Gaulle n'en savait rien, le pauvre, mais... Il y en a un qui a été chauffeur de Stéphanie de Monaco dans les années 80. Enfin, il y a eu beaucoup de recyclage de tous ces braves gens avec une impunité pratiquement totale.
Mais il y en a même un qui fut un acteur assez connu de son rôle, généralement de méchant, dans beaucoup de films de Georges Lautner, mais je ne citerai pas son nom ici. Mais il a fait partie de la Gestapo française. Notre héros, enfin notre personnage Weber, donc... va aller en province, à Tulle. Et c'est pareil, à Tulle, il y a eu certains événements très, très sanglants à cause de la carlingue, entre autres, et des Allemands, bien sûr.
À Tulle, ils ont eu deux vagues, en fait. Ils ont eu la première vague qui a été la Gestapo française, et la deuxième vague qui a été les Allemands, la division Dasreich, je crois.
Tout à fait, la Dasreich.
C'est doublement martyr.
Dont beaucoup d'Alsaciens.
dont beaucoup d'Alsaciens, oui, qui probablement n'en avaient pas demandé autant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Laffont, à partir du moment où il était complètement installé dans Paris, où tout Paris lui mangeait dans la main, où les politiques, les gens de spectacle venaient, s'encanaillaient avec lui, où il avait une, je sais plus, c'était une comtesse ou une baronne, je ne sais plus, à son bras, alors qu'il était rien du tout. C'était des collections de Bentley, et il s'ennuie. Et comme il s'ennuie, il se dit qu'il veut, il veut monter d'un cran. Et monter d'un cran, il veut monter une véritable armée de 5000 personnes pour descendre faire la chasse aux résistants, parce qu'il estime qu'il sait faire. Bon, au final, 5000 personnes, il n'a jamais réussi à les recruter. Il est allé recruter une brigade d'Afrique du Nord, qui sont des anciens démobilisés des Baddaf.
À Barbès.
Et il descend avec eux. Ils ne sont vraiment pas beaucoup. Ils sont 300, je crois, quelque chose comme ça. Et il descend à Tulle, où il y a eu un meurtre d'un agent de la Gestapo locale. Et il descend pour montrer ses gros bras, en fait. Or, sur place, ils sont très peu qualifiés pour la chasse aux maquisards, ces gens-là. Ils sont en tenue de SS, ce qui est absolument fou. C'est-à-dire qu'on a un groupe d'Africains du Nord en tenue de SS, qui ne parlent pas un mot d'allemand, dirigé par des voyous, qui sont des gouailleurs parigots, corses, etc., qui sont également en tenue de SS, qui descendent et qui, faute d'arriver à lutter contre la résistance ou arrêter la résistance, s'entraînent à la population de façon absolument horrible. Donc c'est un épisode terrible de cette histoire, et un des personnages du livre se retrouve aspiré là-dedans. Ils vont effectivement aller semer une espèce de chaos effroyable à Tulle, où ils se font un peu ridiculiser d'ailleurs. Ils repartent avec eux entre les pattes, mais entre-temps, ils ont laissé un souvenir atroce là-bas.
Bien sûr. Alors nous arrivons déjà au terme de cette émission, cela va vraiment très très vite, 25 minutes. Je veux simplement dire que je défie quelques lecteurs que ce soit de deviner la fin, tellement vous avez fait un coup de théâtre magistral à la fin de l'ouvrage.
Eh ben, ça peut être un défi. Hein.
Ah oui, il y a vraiment, si quelqu'un découvre la vérité avant la fin, je pense qu'il méritera un exemplaire dédicacé de votre ouvrage.
Ben avec plaisir, j'en tiens à disposition.
Nous arrivons donc déjà pratiquement au terme de cette émission, Gabriel Katz. Je pense que vous avez peut-être déjà un autre livre en préparation.
J'en ai plusieurs.
Plusieurs, même certainement, oui.
Ouais,
y compris peut-être des scénarios de bande dessinée.
J'ai une bande dessinée en préparation, j'ai un petit polar de Noël, parce que tous les Noël sort un petit polar humoristique, alors pour le coup c'est beaucoup plus léger, et un autre livre historique largement aussi sombre que celui-ci.
Bah, ça sera l'occasion de vous recevoir à nouveau dans cette émission, si vous le voulez bien, bien évidemment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Assassin de Pigalle, c'est paru chez City Edition, et c'est vraiment un ouvrage que je ne peux que conseiller, parce qu'il est vraiment... Qu'on s'intéresse à l'histoire... En général, ou qu'on s'intéresse simplement même au polar, il y a les deux. Et ceux qui aiment les polars historiques, ça sera vraiment pour eux l'excellence. Nous allons terminer par... J'ai trouvé une chanson de cette époque, de 1944-45, par Georges Ulmer. Alors, Georges Ulmer, il est surtout connu pour sa chanson Pigalle, mais il avait fait une chanson où il parlait d'échanger sa voiture contre une Jeep, puisque c'était l'arrivée des GI en France. Nous allons terminer avec cette chanson, et je vous remercie encore une fois d'avoir participé.
Voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hourra. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier. mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, 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 en criant hip, 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 hurra. En passant par les Champs-Élysées, toutes les filles nous ont couvert de baisers. Et Paris s'était mis sa robe la plus jolie de bleu blanc rouge. C'est beau nous fêtes. La tour Eiffel nous disait allô en enlevant pour saluer son drapeau. Un petit monsieur barbu monté sur une statue m'a crié hein, on les a eus. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hourra. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, 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 en criant hip, 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 hip,